Le rendez-vous du libraire, comme chaque mardi, avec aujourd'hui Caroline Berthelot de la librairie La Femme Renard, Faubourg La Capelle à Montauban, bonjour.
Bonjour.
Et Philippe Bernadou et Nathalie Pichon de la librairie Deloche, rue de la République, je sais jamais quel numéro.
Bonjour. 21.
Au 21 donc. Bonjour.
Bonjour.
C'est difficile de la rater. Bonjour.
Merci d'être là pour nous donner quelques idées de lecture. Et on commence avec vous, Caroline. Un livre d'Emmanuel Régnier.
Oui, un livre d'Emmanuel Régnier que je ne connaissais pas pour une balade très très étonnante à l'intérieur de notre château, puisque c'est le titre du livre. Alors, c'est une histoire complètement atypique, aussi captivante qu'inquiétante que ce château dans lequel je me suis complètement laissée prendre. Imaginez un peu, ou plutôt écoutez. Octave et sa sœur Vera vivent tous les deux ensemble, seuls et reclus, dans leur grande demeure familiale, qu'ils ont d'ailleurs baptisé notre château depuis des années. Ils n'en sortent jamais, ou très peu, surtout Vera, préférant passer leur journée à lire dans la bibliothèque familiale. La seule sortie hebdomadaire, c'est le jeudi. Ce jour-là, Octave prend le bus pour aller en ville, plus précisément pour aller voir le libraire, et lui prendre provision de lecture pour la semaine suivante, pour Vera et pour lui. Et passent ainsi les jours et les semaines de Vera et Octave à notre château. Mais le jeudi 31 mars à 14h32, patatras, tout vacille. Octave est en ville, comme chaque jeudi, donc, à attendre son bus pour rentrer à notre château, lorsqu'il voit passer dans le bus 39, à l'intérieur duquel est assise sa sœur Vera. Or, c'est impossible, puisque, comme le dit Octave dès la première page, « Je vais tout de suite vous dire quelque chose, ma sœur ne prend jamais le bus, ma sœur ne va jamais en ville. Et elle déteste aller en ville, elle déteste la ville, elle déteste le bus, et elle me dit chaque jeudi matin quand je pars pour la ville et que je vais prendre le bus, mais comment fais-tu pour prendre le bus ?» Et pourtant, Octave l'a bel et bien vu dans ce bus, et pourtant Vera ne prend bel et bien jamais le bus. C'est le début d'un grain de sable et d'une mécanique effrayante qui va se mettre en branle dans notre château, insidieusement, distillant étrangeté et inquiétude chez Octave et chez Vera, et surtout chez nous lecteurs. Qui a soudain ouvert la porte de la bibliothèque, pourtant toujours fermée? Qui a sorti cet affreux cendrier et allumé une cigarette, pas encore éteinte, alors que Vera ne fume pas et qu'Octave a arrêté, même s'il reprendrait bien? Et ainsi de suite, et ainsi de suite au fil des pages, et surtout, le samedi 2 avril à 11h03, qui sonne à la porte, alors que jamais personne ne vient à notre château. Par un subtil jeu de répétition et d'avancée dans le récit, Emmanuel Régnier restitue à merveille les ambiances de ses romans fantastiques et angoissants d'autrefois. On pense à Poe, évidemment, comment ne pas penser à lui, et nous entraîne dans une promenade au château, entre fantômes familiaux et folie douce, à moins que tout ça ne soit bien pire que ça, finalement. Voilà, je vous propose une petite lecture, si on a le temps.
S'il vous plaît.
On va parler un petit peu de la bibliothèque, forcément. C'est vraiment une lecture étrange que ce texte, et j'y ai pris beaucoup de plaisir. En promenant mon regard sur les livres de la bibliothèque, mon regard s'est soudain arrêté sur un livre étrange. Je veux dire qu'il me semblait étranger à ma bibliothèque. Je ne l'avais jamais vu. Un petit livre comme un carnet d'environ 12 cm sur 7,5. Un petit livre de pas plus de 30 pages. Une couverture étonnante, comme si elle était faite d'une substance pierreuse de couleur foncée. Les feuilles, si on peut les appeler ainsi, car elles sont faites de la même matière, mais plus fines que la couverture. Les pages ne semblent pas cousues, les pages ne semblent pas collées. Pourtant, elles tiennent entre elles. Pourtant, elles adhèrent à la couverture. Et le plus étrange, le plus étonnant, est que ce livre est en grec de la plus pure qualité classique. Il me semble écrit à la main d'une calligraphie si soignée qu'on pourrait penser qu'il est imprimé. Je n'ai jamais vu ce livre. C'est la première fois que je le découvre dans ma bibliothèque et pourtant j'y passe du temps. Et pourtant je regarde et je range très régulièrement mes livres. La place étant limitée, je dois souvent déplacer des titres, en rassembler certains ensemble, en pile sur le sol pour gagner de la place. Je tombe sur des volumes que je ne peux me résoudre à écarter, que je ne sais où mettre et que je ne peux laisser à l'endroit où je viens de les trouver. C'est difficile de ranger une bibliothèque. Quel ordre choisir? Comment faire pour s'y retrouver? Comment faire pour que les livres vivent bien ensemble? Peut-on séparer certains titres d'un même auteur? Peut-on mettre sur la même rangée de bibliothèque tel ou tel auteur ensemble? Qui doit être à portée des yeux? Qui doit être à portée de la main? Qui peut être caché? Qui doit être caché? C'est un art que celui de ranger une bibliothèque. Chaque bibliothèque est une bibliothèque pathologique. De sa pathologie où cohabitent des fantômes, ces fantômes. J'y passe du temps à ranger ma bibliothèque. Je la connais, je l'aime, et je n'ai jamais vu ce livre. Je ne vais rien demander à ma sœur. Elle va me dire que ce livre a toujours été là, que je l'ai acheté il y a 6 ans, que je lui en ai parlé de nombreuses fois. Elle va terminer en me disant « Mais vraiment, qu'est-ce que tu as en ce moment, Octave ?» Si je lui fais remarquer que je ne connais pas le grec, elle va éclater de rire et me dire que si, bien sûr, je le lis couramment, comme le latin, l'hébreu et le sanskrit. Moi qui ne lis et ne parle que le français. Moi qui ne suis jamais sortie du château. Moi qui ne sors jamais du château, si ce n'est pour aller chercher des livres, le jeudi. Je passe ma main sur la couverture du livre. On dirait une petite pierre tombale. Elle est froide. J'ai froid. Je le repose là où je l'ai trouvé. donne une idée de l'ambiance. Notre... avec des vraies bonnes questions sur les bibliothèques.
Notre château d'Emmanuel Régnier. Philippe, Durian Tsukigawa, est-ce que je le dis bien?
Je pense que oui. Et son livre s'appelle « Les délices de Tokyo » et j'ai hésité à vous en parler pour une tout à fait mauvaise raison. C'est que le film tiré de ce roman vient de sortir sur les écrans et que je craignais avoir l'air de faire de la promo pour le dit film. Alors voilà, je n'ai pas vu le film, certainement estimable puisqu'il a été nominé au dernier Festival de Cannes, mais je vous supplie de lire le livre qui est tout bonnement admirable. De quoi s'agit-il? Sentaro est le gérant d'une échoppe où il cuisine et vend des dorayaki, une pâtisserie fourrée de han, une pâte d'haricots rouges. On ne peut pas dire que les affaires soient folichonnes. Un jour, une vieille dame, Tokue, lui propose ses services. Pour un salaire de misère, elle préparera le han. Son savoir-faire décuple la clientèle avant que ne se répande la rumeur, les mains déformées de Tokue seraient une séquelle de la lèpre. Et la patronne de Sentaro demande son renvoi. Le roman bascule à partir de là et nous amène, en compagnie de Sentaro et de Wakana, une jeune lycéenne, sur les traces de Tokue, dans son lieu de vie, le Tenshōen, un centre réservé aux personnes qui ont été atteintes de la maladie de Hansen, autre nom de la lèpre. Tous les habitants en sont guéris, mais continuent à vivre dans ce qui a été leur ghetto. Et auprès d'eux, Sentaro, Wakana et nous-mêmes prendrons une magnifique leçon de vie. La lecture des délices de Tokyo nous confronte à l'intemporalité de la culture japonaise, à sa permanence dans l'actuel et le fugitif. L'attention au cycle de la nature, celui de la lune qui clôt le livre, les saisons du cerisier devant l'échoppe de Sentaro qui le ponctue, c'est aussi important pour l'histoire que la finesse de l'analyse des rapports de Wakana, Sentaro et Tokue, où entre la hiérarchie des âges, des expériences, pour ne pas dire des classes, l'importance de ce qu'on se dit, et plus encore de ce qu'on ne se dit pas, la qualité des silences. On le sait, ce n'est pas la céramique qui le modèle, ce n'est pas par la céramique qui le modèle qu'un vase existe, mais par le vide qu'il contient. Lisez les délices de Tokyo et laissez-vous aller à l'émotion qui ne manquera pas de vous submerger. C'est publié par Albin Michel.
Et on continue notre rendez-vous du libraire comme chaque mardi avec une autre proposition de lecture de Nathalie Rondrache.
Rondrache, le chant de la Tamassie. Alors la Tamassie est une rivière qui marque la frontière entre deux États, la Caroline du Sud et la Géorgie. C'est cette particularité qui va amener la jeune Ruth Kowalski, 12 ans, à vouloir se baigner dans ses eaux par une belle journée de pique-nique familial. Et c'est le drame. Bonne nageuse, l'enfant ne peut lutter contre les courants traîtres de la Tamassie et se noie sous les yeux impuissants de ses parents. L'histoire aurait pu s'en arrêter là, mais la rivière ne rend pas le corps, bloquée sous un rocher, difficile d'accès pour les plongeurs. La tragédie prend alors une autre dimension lorsque la famille demande à une société privée de détourner, grâce à un barrage provisoire, la trajectoire du cours d'eau. C'est sans compter sur l'opposition des environnementalistes locaux qui se sont beaucoup battus par le passé pour obtenir le label de rivière sauvage. Ce label n'autorise aucune intervention de l'homme, que ce soit sur la rivière elle-même ou sur ses abords. C'est l'affrontement. Les deux camps argumentent, ceux qui soutiennent le souhait plus que normal de la famille de pouvoir offrir une sépulture à la disparue et ceux qui ne veulent pas que l'on touche à la Tamassie. Leur crainte est de créer un précédent et donc une porte ouverte pour les investisseurs qui n'attendent que ça pour implanter leurs divers projets qui risqueraient de dénaturer cette terre préservée jusqu'à maintenant. Les médias commencent à s'intéresser de très près à l'affaire. Maggie Glenn est photographe. Cette affaire la ramène au pays, accompagnée d'un collègue journaliste qui ne la laisse pas indifférente. Elle y retrouve de vieilles connaissances, sa tante, son père avec qui elle est en froid, un ancien amoureux qui, étrange coïncidence, est le leader écolo du coin. Chacun traîne ses casseroles, ses fantômes. À l'image de la Tamassie, si lisse et belle en surface, mais parfois tumultueuse et pleine de remous en profondeur. Chacun des personnages de Rondrache laisse entrevoir sa part d'ombre ou de regret, de culpabilité. Le débat fait rage et il faudra un nouveau drame qui démontrera la puissance de cette rivière pour que chacun s'en retourne chez soi, pas forcément apaisé. Comme à son habitude, l'écriture de Rache est belle et forte. Il a cette merveilleuse capacité de nous décrire une nature sauvage, fière, traîtresse également. Dans chacun de ses romans, c'est elle qui a la part belle, et l'on ressent cette fascination qu'il lui porte. Ces personnages humains ne semblent finalement être que des pions dans cet univers, un pâle reflet de quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, qui nous dépasse. J'avais déjà beaucoup aimé son précédent roman « Une terre d'ombre » paru l'an dernier, un récit également poignant et magnifique. Si vous n'avez pas encore lu Ron Rash, je vous engage sincèrement à découvrir l'ensemble de son œuvre. Ça vaut le détour.
Merci Nathalie. Je rappelle que cette émission est podcastable hein, sur notre site internet cfmradio.fr si vous en avez raté tout ou partie. Et puis bien sûr que les références des ouvrages présentés par nos libraires sont sur leur site internet librairiemontauban.fr. Librairie étant au pluriel, écrit d'ici, nouvelle rubrique hebdomadaire.
Oui, un coup de projecteur sur l'actualité éditoriale régionale. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une revue qui s'appelle L'Art dans l'air. L'Art dans l'air en est à son numéro 18. Et les 17 premiers étaient consacrés à l'actualité des arts visuels en Languedoc-Roussillon. Il se trouve que depuis le 1er janvier, ils ont étendu bien sûr leur action à la grande région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, dont on attend toujours le nom définitif. Et pour fêter cette entrée en Midi-Pyrénées, le numéro est entièrement consacré aux 8 départements de Midi-Pyrénées, et en particulier pour ce qui nous concerne à Monsieur Bernard Duvert, qui est peintre, qui habite à Caussade, si je me souviens bien, et qui a fait deux livres d'aquarelles sur Montauban et sur Caussade. Là, un article lui est consacré, donc, dans cette revue « L'art dans l'air ».
Ben voilà, à aller chercher à la librairie de Loche.
Pour le moment.
L'actualité des librairies, on commence par La Femme Renard, Caroline.
Oui, La Femme Renard est comme chaque année partenaire du festival de contes Alors Raconte, et donc on se balade un petit peu partout dans le département depuis le début du festival. Et pour cette semaine, le jeudi 11 à 20h30, nous serons à Villebrumier, le vendredi 12, toujours à 20h30, à Verdun-sur-Garonne, et le samedi 13 à Montricoult. On présente à chaque fois une petite table thématique de contes pour les petits et pour les grands.
Merci Philippe. L'actualité du côté de la Place Nationale peut-être?
Du côté de la Place Nationale et de la Maison du Crieur, où Maurice Sebout vous propose, comme tous les seconds samedis du mois, une rencontre avec Gérard Noël pour expertiser vos photographies anciennes. C'est de 14h à 18h, donc à la Maison du Crieur, samedi 13.
Merci messieurs, dames. Avant qu'on se quitte, donnez-nous à nouveau, s'il vous plaît, les titres et les éditions des bouquins que vous nous avez proposés aujourd'hui.
Moi, je vous ai proposé une balade dans Notre Château. C'est un roman d'Emmanuel Régnier. C'est publié au Tripode.
De Durian Sukegawa, Les délices de Tokyo sont chez Albin Michel.
Et aux éditions du Seuil, Le chant de la Tamassie de l'américain Ron Rash.
C'était le rendez-vous du libraire. À mardi prochain.
Au revoir.